Il est 7h.
Les affrontements doivent cesser immédiatement. Je demande à tous les intervenants d'entendre cet appel.
L'appel d'Antonio Guterres, le secrétaire national des Nations Unies, alors que les raids israéliens se sont poursuivis cette nuit dans la bande de Gaza après un dimanche particulièrement sanglant. Sanofi peut-il revenir dans la course pour le vaccin contre le Covid? Le laboratoire devrait présenter ce matin les résultats de la phase 2 de ses tests. S'ils sont bons, la fabrication du vaccin suivra. J-2 avant le retour des premières libertés, les terrasses, les cinémas et les commerces rouvrent mercredi. Reprise des concerts aussi avec un vrai casse-tête à gérer pour la billetterie. Et puis le suspense reste entier. Qui de Lille ou Paris sera champion de Ligue 1 cette année? Un point seulement sépare les deux équipes avant la dernière journée.
Juste après ce journal, l'éclairage écho, Nicolas Barré, avant le regard international de Vincent Hervouette.
Oui, le Proche-Orient est de nouveau au centre du monde et le monde regarde son nombril impuissant et gémissant.
L'édito sport de Virginie Fulpin.
Multiplex, tous les matchs à la même heure, du suspense, de l'enjeu à tous les étages, elle est vibrante cette fin de saison de foot.
Et puis avant 7h30, on va retrouver bien sûr Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous, vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h sur Europe 1, le journal d'Émilie Dez.
À la une, après une semaine de conflit, Israël intensifie une nouvelle fois la pression sur la bande de Gaza. Le domicile du chef du Hamas a été bombardé hier. On ignore s'il était présent au moment de la frappe. La veille, c'est un immeuble abritant des médias internationaux qui avait été détruit. Et cette nuit, Jean-Sébastien Soldaini, les raids se sont poursuivis.
Et ce sont des frappes qu'Israël affirme mener à plein régime. Des témoins sur place parlent de bombardements les plus intenses depuis la reprise des affrontements entre Israël et le Hamas à Gaza. Un pilonnage qui n'a duré que quelques minutes, mais qui aurait endommagé des centaines de bâtiments. Une partie des habitations de l'enclave palestinienne est privée d'électricité. Difficile à admettre pour Wassel Abou Youssef, membre de l'OLP, l'Organisation pour la Libération de la Palestine.
Cette insistance du gouvernement de Netanyahou à la destruction et à la mort d'un grand nombre de civils, d'enfants, de femmes, ainsi que la destruction des infrastructures sont autant de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.
Et cet intense pilonnage intervient alors que la journée d'hier a été la plus meurtrière. 42 Palestiniens ont été tués, dont au moins 8 enfants. À Jérusalem, la tension reste vive, notamment dans le quartier de Sheikh Jarrah. À l'origine de ce regain de violence, c'est là qu'hier soir, une attaque à la voiture bélier contre une patrouille israélienne a fait plusieurs blessés.
Et après une telle semaine de violence et d'appel au calme relayé par les plus grandes puissances, cette fois c'est le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui appelle à un cessez-le-feu immédiat.
Les hostilités actuelles sont tout à fait effroyables. Ce nouveau cycle de violence ne fait que perpétuer les cycles de mort, de destruction et de désespoir et repousse toujours plus loin tout espoir de coexistence et de paix. Les affrontements doivent cesser immédiatement. Les roquettes et les mortiers d'un côté et les bombardements aériens et d'artillerie de l'autre doivent cesser. Je demande à tous les intervenants d'entendre cet appel.
Hier, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni pour la troisième fois sans réussir à s'accorder sur une déclaration commune.
Sanofi peut-il encore revenir dans la course au vaccin contre le Covid? Le laboratoire a pris du retard après les premiers résultats décevants de ses essais cliniques annoncés au mois de décembre dernier.
Le vaccin n'était pas assez efficace pour les publics les plus âgés. Ce matin, Sanofi devrait présenter les résultats de la phase 2 de ses tests, des résultats déterminants pour la suite, Emmanuel Duteil.
Oui, chez Sanofi, on veut croire que la course au vaccin n'est pas finie. Oui, on arrive après tout le monde. C'est très vexant pour un spécialiste des vaccins comme nous, mais notre produit va montrer toute son utilité, veut-on se rassurer en interne. Si les résultats attendus potentiellement ce matin sont bons, ce qui semble être le cas, Sanofi va lancer une dernière étude dite de phase 3. Mais il va surtout lancer en parallèle la production de son vaccin. Les premiers flacons pourraient être disponibles d'ici à la fin de l'année. L'avantage de ce produit, c'est qu'il s'appuie sur une technologie éprouvée. C'est celle qui est utilisée pour le vaccin contre la grippe. Il se garde facilement entre plus 2 et plus 8 degrés. Et Sanofi étant l'un des plus grands laboratoires au monde, il dispose d'énormes capacité de production, car chez Sanofi, on en est persuadé, il va falloir revacciner les populations et là, pour aller vite et le faire avec moins de pression, eh bien le vaccin de Sanofi aura vraiment toute son utilité.
Et le patron de Sanofi, Olivier Boggio, sera en exclusivité l'invité de Sonia Mabrouk tout à l'heure à 8h15.
Plus que deux jours à tenir avant le retour d'un peu de liberté. Dès mercredi, le couvre-feu sera repoussé à 21h. Les terrasses, les commerces et les cinémas vont pouvoir rouvrir avec des jauges réduites.
Réouverture aussi des salles de concert après une année rythmée par les reports ou les annulations. Difficile parfois de s'y retrouver pour le public en ce qui concerne les remboursements. Et que dire des professionnels du secteur qui ne cessent de s'adapter, comme a pu le constater Angèle Châtelier.
Tu ne peux pas accueillir les 1000 premiers qui arrivent et puis ceux qui ont un billet rester à la porte.
Mélanie Brolo travaille pour Citiket, un site pour acheter des billets de spectacle. Et entre les annulations, les reports et les contraintes sanitaires, sa vie est un casse-tête.
Il faut vraiment un travail de fourmi, en fait, de contacter toutes les salles, les festivals, les managers, les artistes pour mettre à jour au fur et à mesure.
Principal problème, la jauge réduite. Là, jusqu'à fin juin, c'est 65% de spectateurs maximum dans la salle. Mais si un concert était complet avant la pandémie, ça implique de laisser des spectateurs sur le carreau. Alors Alain Souchon a trouvé la solution, jouer plus. Il a 4 dates de prévues au Palais des Sports de Paris fin juin, par exemple. Son tourneur, Pierre-Alexandre Vertadier, qui est directeur de Décibel Productions, s'occupe aussi de Louis Chédid ou de Kenji Girac, qui repartent bientôt sur les routes. Et il travaille d'arrache-pied pour s'adapter à tout.
On insiste beaucoup sur le fait que les billets qui ont été achetés seront valables. J'ose espérer que ça ne va pas durer éternellement. Donc on fait plutôt un peu au cas par cas en ce moment.
D'autres ont préféré faire table rase, rembourser tout le monde et ouvrir une nouvelle billetterie. Comme le Festival des Vieilles Charrues qui accueillera cette année 5 fois moins de festivaliers que d'habitude.
Angèle Châtelier pour Europe 1.
L'adolescent de 14 ans soupçonné d'avoir poignardé mortellement une jeune fille à Ivry-sur-Seine a été mis en examen pour meurtre.
Le jeune homme qui a un casier judiciaire vierge a reconnu sa participation mais soutient n'avoir pas eu l'intention de donner la mort. Une marche blanche sera organisée en mémoire de la jeune fille samedi.
Du football et le suspense qui reste entier au sommet du classement de la Ligue 1.
Les années précédentes, on avait l'habitude de voir Paris sacré bien avant la fin de la saison. Cette année, c'est loin d'être fait, Simon Rubin.
Ah, on peut difficilement rêver mieux, effectivement. Lille ne compte plus qu'un point d'avance sur le PSG ce matin après son match nul 0-0 contre Saint-Etienne. Paris, qui de son côté a battu Reims 4-0. Tout se jouera donc sur la dernière rencontre dimanche prochain. Lille ira à Angers pour cette dernière journée. Paris à Brest. Imaginez, hein, les Lillois vont passer la semaine à ne penser qu'à ça, à ce dernier match. La possibilité de faire tomber Paris de son piédestal, à la fois exaltant et angoissant. Un duel pour le titre, enfin, c'est même mieux que ça, parce que depuis hier soir, un troisième larron entre dans l'histoire, c'est Monaco qui pourrait être champion si Lille et Paris perdent leur dernier match. Monaco qui se battra pour à minima conserver sa troisième place qualificative en Ligue des Champions face à Lyon. Et puis il y a aussi la cinquième place, la petite Coupe d'Europe. C'est un enjeu également pour Marseille et Lens. Enfin en bas de tableau, on lutte pour le maintien. Alors c'est terminé depuis hier soir pour Nîmes qui accompagnera Dijon en Ligue 2. Mais il reste encore une place de barragiste. Reims, Bordeaux, Strasbourg, Lorient, Nantes, Brest sont tous sous la menace. Ça veut dire que dimanche soir prochain, si vous voulez du frisson, de l'émotion, des retournements de situation, ben on a beaucoup mieux qu'un film ou que Netflix. Faites confiance au multiplex d'Europe 1.
Et le retour du bon vieux multiplex a réveillé la nostalgie de Virginie Fulpin qui nous en parlera oui. Tout à l'heure à 7h20.
Dans l'édito sport, effectivement. Et on va terminer avec l'histoire incroyable de ce tout jeune médecin qui vient de se lancer dans un Tour de France des remplacements à bord d'un camping-car.
Oui, il a pris la route il y a près de 2 mois, quelques jours seulement après avoir obtenu son diplôme de médecin généraliste. Son idée, remplacer ses confrères débordés dans les zones rurales. Marion Gauthier l'a rencontré au début de sa 5e étape dans l'Aisne à Vervins.
Je me suis dit, mais je ne vais pas m'installer tout de suite. Et pourquoi je ne partirais pas finalement exercer partout? Ben oui, mais le logement, c'est compliqué. Mais pourquoi je ne prendrais pas un camping-car?
Un mastodonte, 7 mètres sur 2, entre les haies du camping municipal dont s'occupe Michel, habitué au kilomètre pour trouver un praticien.
Il manque de médecins, ben, je trouve que c'est très bien.
Cette suture.
Passation de cabinet à Vervins, un médecin va pouvoir souffler un peu.
Moi, cette semaine, je vais quand même travailler à l'hôpital, mais ça va me permettre de baisser mon rythme d'un cran, c'est-à-dire que j'aurai pas le rythme du téléphone qui met un peu la pression.
Un an que François cherche un remplaçant, Marcel lui prendra sa blouse pendant une semaine.
J'ai envie de faire la médecine rurale, mais je pense que j'ai besoin aussi de profiter de l'opportunité que j'ai d'exercer mon métier partout en France. Je suis jamais venu dans l'Aisne, dans la Thiérache.
Marcel, je te remets le moutard de la Thiérache qui est sorti il y a 2 ans, on en est très fiers.
Mais c'est trop sympa.
Puis après, je te passerai les clés.
Le fait qu'un médecin qui vienne de nulle part puisse trouver des remplacements aussi facilement, bah, ça veut dire qu'il y a quand même un vide.
Un vide que Martial voudrait combler. L'itinérant pense déjà à créer une association pour multiplier les Tours de France de généralistes. Sur la route du futur tour à Vervins, Marion Gauthier, Europe 1.
Cela dit, c'est très Covid, hein, finalement, le camping-car. Certains ont pu y goûter. Alors pourquoi pas pour exercer la médecine partout dans le pays. Merci Émilie Dez. C'était le journal de 7h sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous. Il est 7h10.
Europe 1, Mathieu Béliard.
François Bayrou veut relancer la natalité. C'est en qualité de haut commissaire au plan qu'il alerte sur une bombe sociale. Ce sont ses mots. À défaut de renouvellement des générations, c'est notre système social qui est menacé. C'est la particularité française sur ces questions de démographie. On va en parler à 7h40 avec Hervé Lebras, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. C'est le tête-à-tête Europe Matin. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré. Peut-on faire confiance à WhatsApp? Je sais que vous êtes nombreux à vous poser la question. Quelques éléments de réponse dans un instant.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h11 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
C'est un très sérieux bras de fer qui s'engage entre WhatsApp et sa maison mère Facebook d'une part, et de nombreux pays qui veulent protéger l'exploitation des données personnelles de leurs citoyens.
Oui, vous savez, depuis ce week-end, la dernière mise à jour de WhatsApp prévoit que les données personnelles des utilisateurs, et on est 20 millions en France, seront enregistrées par l'application. D'où des craintes sur l'utilisation qui pourrait en être faite de ces données par Facebook. Il y a 3 mois, cette mise à jour avait été retardée parce que ça avait provoqué un tollé mondial. Mais cette fois, WhatsApp et Facebook passent à l'action et ils préviennent: si vous refusez la mise à jour, eh bien d'ici quelques semaines, vous ne recevrez plus de messages ni d'appels sur WhatsApp.
Alors Facebook se veut rassurant sur le partage de données?
Oui, seulement les régulateurs de plusieurs pays, et non des moindres, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, entre autres, n'ont pas confiance. L'autorité de tutelle allemande vient carrément d'interdire à Facebook de traiter les données personnelles récoltées via WhatsApp. Elle critique cette mise à jour. Je cite: même après une analyse poussée, les conséquences qu'une acceptation a sur les utilisateurs ne sont pas claires. En fait, ce qui est clair, c'est que si Facebook tient tellement à récupérer vos données personnelles, ce n'est pas pour en faire des cacahuètes, c'est pour en tirer des revenus.
Bah bien sûr, c'est la contrepartie du fait que WhatsApp soit gratuit.
Exactement. Facebook avait racheté WhatsApp 19 milliards de dollars en 2014, mais il ne monétise pas ce service. Mieux vaudrait donc que Facebook soit plus transparent sur ses intentions plutôt que de faire croire que rien ne changera. En attendant, les utilisateurs qui craignent que leurs données ne soient exploitées on ne sait trop comment peuvent se rabattre sur d'autres messageries comme Telegram, Signal, Scred, Citadel et j'en passe, qui offrent des services du même genre. Telegram compte déjà 550 millions d'utilisateurs. Il en a recruté 50 millions depuis que WhatsApp a parlé de cette fameuse mise à jour. La concurrence se frotte les mains.
C'est vrai que de nombreux foyers ont vu débarquer ces nouvelles applications en remplacement de WhatsApp ces derniers jours. À suivre donc. Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Il est 7h13. Le regard international, Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu.
42 Palestiniens tués ce dimanche à Gaza, dont au moins 8 enfants. C'est le bilan quotidien le plus lourd depuis le début de l'affrontement entre Israël et le Hamas il y a une semaine.
Oui, la crise a commencé, vous le savez, avec un contentieux sur le droit de propriété dans un faubourg de Jérusalem, Sheikh Jarrah, qui est un casse-tête juridique à côté duquel le Talmud est simplicité et transparence. Personne ne sait qui a raison, des Israéliens qui veulent récupérer leurs biens ou des Palestiniens qui refusent d'être mis à la porte. Cette histoire picrocolesque a été scrutée par les ambassades. La manifestation qui a suivi a eu un écho dans le monde entier. La répression de l'émeute jusqu'à l'entrée de la mosquée Al-Aqsa a fait l'ouverture des journaux télévisés. Qui dit mieux ? Pas les Birmans de l'ethnie Kachin bombardés par leur armée, ni la Colombie en convulsion. Même les variants sud-africains ou brésiliens ont disparu des radars. Avis aux putschistes du monde entier, profitez-en, c'est le moment. Personne ne fera attention. Le monde n'a Dieu que pour le Proche-Orient.
Depuis une semaine, personne ne peut arrêter la spirale de la violence.
Oui, on se demande ce que ferait notre société si elle était confrontée à la même violence. La Bretagne est un peu plus vaste qu'Israël. Imaginons que les Bretons subissent une pluie de 3000 roquettes en une semaine. Est-ce que Jean-Yves Le Drian appellerait à la retenue, au dialogue? En même temps, le propre de ce conflit, c'est qu'il est le plus long, le plus documenté de l'histoire contemporaine, mais pas le plus sanglant. 3000 roquettes font 10 morts. Depuis une semaine, l'un des 122 groupes armés de l'Est du Congo a tué à lui seul 3 fois plus de civils, 1000 depuis un an et demi, et vous n'en entendez jamais parler.
La riposte israélienne, elle, est meurtrière.
Oui, 42 morts, vous l'avez dit, rien qu'hier. Mais contrairement aux Congolais, on sait de qui il s'agit. Leur profession de médecin, leur âge, 8 enfants. On peut même trouver leur nom et prénom. C'est comme si les Palestiniens saignaient sur notre palier. Rien à voir avec les victimes africaines abandonnées dans les ténèbres. La tragédie palestinienne n'est plus la cause sacrée du monde arabe. La France n'a plus de politique arabe. Mais l'affaire enflamme toujours les passions, comme si on craignait que les violences entre Israéliens juifs et Israéliens arabes débordent jusqu'ici.
Vincent Hervouet, le regard international. Merci Vincent, tous les matins sur Europe 1, il est 7h16. Et dans un tout petit instant, l'édito sport, Virginie Fulpin, et juste après, notre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu. Oui, aujourd'hui, je sais que vous kiffez, mais d'où vient l'expression, l'origine du kiff ?
La réponse dans quelques toutes petites minutes. À tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h19 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Tout, ou presque, se jouera lors de la dernière journée en Ligue 1. La course au titre, à l'Europe, au maintien. Lille est toujours leader, mais le Paris Saint-Germain n'est plus qu'à un point après la soirée d'hier. Et c'est pareil à tous les étages. Pour vous, les multiplexes des dernières journées, tous ces matchs à la même heure, c'est un vrai bon moment de football.
Mais les multiplexes, c'est un peu les soirées pop-corn de fin de saison.
C'est vrai.
D'accord, c'est toujours un crève-cœur, les tribunes vides pour le dénouement de l'intrigue. Mais chacun chez soi, on s'installe confortablement, on baisse les lumières et on se laisse embarquer.
Sur tous les terrains, tous les matchs, sur l'antenne d'Europe 1, nos 10 commentateurs, nos envoyés spéciaux, nos correspondants sont présents. C'est parti, que le but soit avec vous.
Voilà, c'est Lionel Rousseau qui nous emmène sur Europe 1 pour une soirée de foot et un voyage dans le temps. Multiplex, c'est un mot du XXe siècle, une madeleine de nos soirées de championnat d'antan, de celles qui s'écoutaient l'oreille collée au transistor sous les draps, enfin, ou de celles qu'on vous a racontées pour les plus jeunes. But à Nîmes pour Lyon, Monaco ouvre le score face à Rennes, on se rend coup pour coup pour participer à la Ligue des Champions, et Nantes marque à Dijon en refusant le spectre de la relégation. On passe d'un terrain à l'autre en voyant se dessiner les contours de la saison prochaine, de l'avenir, tout en revivant notre passé. Le don d'ubiquité et celui de vivre plusieurs époques à la fois, c'est mieux que la réalité virtuelle. Les multiplexes.
Et le suspense qui dure jusqu'au bout.
Bah, qui sera champion de France ? Lille a les cartes en main, mais on sent comme une peur de gagner. Et Saint-Etienne qui bloque parfaitement les nordistes. Les Lillois restent sous la menace d'un retour du Paris Saint-Germain opposé à Reims.
Sur pied gauche, sur le corner. 4-0 pour Paris. C'est Moïse Kean qui prend de l'air et qui permet à Paris
et d'emporter. Et 3-0 pour les Girondins de Bordeaux. Le but de Zerkan. Il reste que quelques secondes à jouer.
Bah, ça fuse de tous les génial. Côtés. Hein, entre Paris qui veut garder son titre et Bordeaux qui cherche à se maintenir dans l'élite contre Lens. Avec le multiplex, on ne comprend pas forcément comment se construisent les victoires et les défaites, hein, puisqu'on papillonne d'un stade à l'autre. Mais qu'est-ce qu'on vibre ? Et on en sait plus que les joueurs sur tout ce qui se passe. Eux, ils sont concentrés sur leur match. Nous, on a une vision d'ensemble. Oui, un multiplex, et je me prends pour Balzac, le narrateur omniscient. Ouais, tout à fait, ça peut faire cet effet-là, les soirées foot. Hein. Au moment de la Super League, vous savez, Andrea Agnelli, le président de la Juventus de Turin, expliquait que ses enfants n'arrivaient plus à suivre un match de foot en entier. Un conseil, Andrea, les multiplex. Il n'y a pas mieux pour raviver la passion. Puis ça tombe bien parce qu'on en aura encore un dimanche.
Merci Virginie Fulpin. C'est vrai que le multiplex, ça fait partie de cette fin de championnat. Merci Virginie Fulpin, l'édito sport avec vous tous les matins, 7 à 7h20. Et tous les matins, juste après l'édito sport, on retrouve Stéphane Bern pour un mot d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ce matin, je vous propose un petit kiff. Rassurez-vous, rien qui ne contrevienne à la loi. Voyons plutôt ensemble l'origine du kiff. Le verbe kiffer, se faire un kiff. Pourquoi la jeune génération dit je te kiffe grave, ou même je te surkiffe.
Premier groupe, kiffer. Si ma mémoire est bonne, Stéphane, on avait vu un matin l'origine de ces kiff-kiff pour dire c'est pareil. J'imagine que ça vient également de la langue arabe.
Exactement, Mathieu. Kiffer vient sans surprise de kiff, de l'arabe maghrébin, et cela signifie amusement, plaisir. Jusqu'au XVIIe siècle, il est directement associé à l'alcool. 100 ans plus tard, il fait plutôt référence à tout ce qui provoque une félicité factice. Et en 1853, le petit Robert Français met les pieds dans le plat en parlant, je cite, « d'un état de béatitude provoqué par un mélange de tabac et de chanvre indien ». Les Arabes d'Égypte appellent le hashish le keif. Et en fait, c'est au XIIIe siècle, au cœur des montagnes perses, dans un couvent, que l'on trouve pour la première fois la trace de cette fameuse plante que le cheikh Haïder aurait découverte par hasard. Après en avoir fait goûter à ses disciples, ils se seraient tous trouvés dans une disposition gaie et joyeuse. Voyant cela, il fit promettre à ses amis de garder cette plante secrète et de n'en parler à personne. Bon, inutile de vous dire que ça n'a pas marché. Quelques temps plus tard, en octobre 1800, le jeune général Napoléon, qui a failli se faire poignarder par un fumeur de haschich, édite un décret pour en interdire la consommation en France. Là encore, peine perdue. Aujourd'hui, si vous entendez kiffer, vous n'êtes pas forcément en compagnie d'un fumeur. Cela désigne juste un grand plaisir proche de la béatitude. Allez, terminons sur un bon mot de l'animateur télé Laurent Ruquier. Je ne suis pas pour la légalisation du cannabis, d'autant que moi, je peux en trouver facilement.
À 16h tout à l'heure, Stéphane Bern, on va kiffer dans Historiquement Vôtre.
Alors, je l'espère, on réunit Cléopâtre Sélénée, la fille aînée de Cléopâtre, Irène Joliot-Curie, la fille de Marie Curie, et Lily Rose Depp, la fille de Vanessa Paradis. Leur point commun, bah vous l'avez compris, t'es bien la fille de ta mère. On réunit de dignes héritières qui suivent la même voie que leur mère.
À tout à l'heure, 16h avec Mathieu Noël sur Europe 1. 7h24, dans quelques instants, la météo, Laurent Cabrol et un nouveau journal à 7h30. Il est 7h27 et Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Comme dirait Stéphane Bern, c'est kiff kiff bourricot le temps. Le temps ne change pas. Malheureusement, on garde le sourire, mais enfin, bon, c'est une journée d'averse, de giboulées, d'orages, de vent fort, 50-60 km/h, et ce sur les deux tiers nord de la France, donc une grande partie du pays. Je vais citer quelques régions, Bretagne, Val-de-Loire, région parisienne, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes, tout le Massif central, le Poitou, ce sont les régions essentiellement marquées par ce type de temps. Mais disons que ce sera quand même un régime de giboulées dans l'après-midi, et c'est surtout cet après-midi que les averses seront violentes. Sur le littoral atlantique, allez, une petite parenthèse ensoleillée, très légèrement. Région Nantaise, Vendée, Charente, Aquitaine, Midi-Pyrénées. Un peu plus de soleil dans la deuxième partie de journée dans toutes ces contrées. Et puis sur le bassin méditerranéen, ma foi, il fera assez beau, 80 km/h. C'est la vitesse du vent, ça, c'est pas drôle. Les températures maximales, 14 à Sedan, 15 à Nancy, 16 à Nevers, Colmar et Limoges, 17 à Bordeaux, à Périgueux, Colmar, Limoges, non pas Limoges, Colmar et La Rochelle, pardon, 17 à Paris, 18 à Toulouse, 19 à Lyon, 22 à Marseille et 25 degrés à Nice. Et d'un mot, je vous parlerai tout à l'heure de mercredi. Mercredi, ça sera pas mal sur les deux tiers de la France. Les régions les moins gâtées seront les Hauts-de-France, le Grand Est, la Bourgogne, la région Rhône-Alpes, où là, nous aurons encore des averses. Mais ailleurs, les éclaircies vont l'emporter. Je parle de mercredi, vous savez pourquoi.
Merci beaucoup. Oui, on sait pourquoi. J-2. On compte les heures, les jours, les minutes. On va reparler dans un instant d'ailleurs. Tiens, Lénaïque Monnier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
Et c'est imminent, le laboratoire Sanofi s'apprête à dévoiler les résultats de la phase 2 de ces tests. Emmanuel Duteil nous dira s'ils sont bons et quelles sont les conséquences à en tirer. L'industrie française a l'honneur également ce matin avec les salariés d'Alstom Belfort, très soulagés. 130 trains commandés par l'Ukraine vont sauver leur usine. Et puis comment réacclimater les animaux des zoos à revoir du public humain? Reportage à Beauval dans ce journal.
Juste après ce journal, la touche âme, le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Alerte sur la natalité française. Le démographe Hervé Lebras, invité du tête-à-tête Europe Matin. L'édito politique, Nicolas Bétou.
L'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement National ressort. Pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron.
Et puis enfin, juste avant 8h, Nicolas Canteloup qui conseille à sa façon l'invité de la matinale. Ce matin, Sonia Mabrouk reçoit le président de Sanofi France, Olivier Bogillot. Très bon réveil à toutes et à tous. Sur Europe 1, il est 7h30.
Europe 1, écoutez le monde changer.
On l'apprend donc à l'instant, les résultats de la phase 2 des tests du laboratoire Sanofi sont très bons. Emmanuel Duteil, bonjour.
Bonjour.
Ça signifie qu'après un certain retard à l'allumage, eh bien le labo se relance complètement dans la course au vaccin.
Oui, on peut même dire que Sanofi frappe ce matin très fort. Après l'administration de 2 doses, son vaccin montre une efficacité de 95 à 100%, ce qui est assez exceptionnel. Et cette efficacité se vérifie sur toutes les tranches d'âge de 18 à 95 ans, ce qui change tout. La première version de son vaccin n'était pas assez efficace, notamment sur les plus âgés. Alors, le vaccin reste malgré tout particulièrement performant sur les plus jeunes. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'une seule dose semble assez efficace sur tous ceux qui ont déjà eu le Covid. Ce qui fait que ce vaccin, qui devrait être disponible d'ici à la fin de l'année, pourrait être très utile quand il va falloir revacciner. Mais attention, tout n'est pas encore gagné, bien loin de là. Même si c'est porteur d'espoir et même de sérieux espoirs, ces résultats sont encore à confirmer. Sanofi va lancer une dernière étude que l'on appelle de phase 3 dans les semaines à venir. Et si tout va bien, le laboratoire va pouvoir lancer quasi simultanément la production des premiers vaccins et donc pour une fois des premiers vaccins made in France.
Merci Emmanuel Dutheil pour ces précisions en direct ce matin sur Europe 1.
Et au micro de Sonia Mabrouk à 8h15, tout à l'heure, montez le son, Olivier Bogio, le président de Sanofi France en exclusivité sur Europe 1.
Et les nouvelles sont bonnes également pour un autre grand groupe français, Alstom, dont les 500 salariés de l'usine de Belfort peuvent respirer. Les emplois seront maintenus grâce à une commande de 130 trains venus d'Ukraine. Mélina Fachin.
Sans ce contrat ukrainien, Alstom Transport à Belfort se retrouvait à court de commandes dès septembre prochain. La construction de cette vingtaine de doubles locomotives va donc permettre aux 500 salariés de poursuivre leur activité pendant au moins 4 ou 5 ans. André Fage, délégué du personnel CFE-CGC.
Alstom à Belfort était dans une situation critique. Les gens ne savaient pas ou ne pouvaient plus se projeter, ne serait-ce que pour acheter une maison ou ce genre de projet qui demande des emprunts, des choses comme ça. Maintenant, ça va repartir au quart de tour.
Et au-delà d'Alstom Transport, qui fait partie de l'ADN de Belfort depuis 150 ans, c'est toute la ville et le bassin d'emploi qui va en profiter, comme l'explique le maire Damien Meslot.
Bien sûr, parce que vous avez les emplois directs, mais vous avez deux à trois fois plus d'emplois indirects qui seront impactés par ces commandes. Donc c'est vraiment une excellente chose pour notre ville et notre département.
La phase de construction de ces locomotives ne commencera toutefois que d'ici un an et demi. En attendant, les deux tiers des salariés devront certainement être placés en chômage partiel. Belfort, Mélina Fachin, Europe 1.
L'actualité à l'étranger, c'est cette nouvelle nuit de violence au Proche-Orient.
42 Palestiniens tués à Gaza, dont au moins 8 enfants. C'est le bilan quotidien le plus lourd depuis le début de l'affrontement entre Israël et le Hamas il y a une semaine. La diplomatie piétine. Aucune proposition n'est ressortie de la troisième réunion du Conseil de sécurité de l'ONU.
Retour en France. Ce lundi marque le début de la semaine de la sécurité routière au travail.
Oui, on ne le sait pas forcément, mais les accidents de la route sont la première cause de mortalité au travail. Et ce matin, Europe 1 vous dévoile en exclusivité que depuis le début de la crise sanitaire, 30% des Français ont bien changé leur comportement sur la route, mais pas du tout pour le meilleur. Voici les explications de Cécile Lécher. Elle est chargée de la prévention des risques routiers chez MMA.
En pleine crise sanitaire, les autoroutes étaient vides. Il y a eu une hausse de la vitesse moyenne observée. Je conduis plus vite, je fais moins attention. Et des comportements à risque se sont effectivement développés sur la route. Il y a un danger qui est vraiment en train de se développer, c'est le téléphone. La voiture, finalement, c'est devenu un bureau mobile avec des actifs qui nous disent consulter leur mail, qui passent aussi beaucoup d'appels. 70% déclarent passer des appels au volant et le risque d'avoir un accident est beaucoup plus important. Et d'ailleurs, on voit au travers de l'étude que 43% des actifs nous disent avoir frôlé un accident, 18% ont eu un accident, 38% ont eu une amende. Donc vous voyez que ce sont des comportements qui sont vraiment très à risque.
Cécile Lécher, chargée de prévention des risques routiers chez MMA, interrogée par Diane Berger pour Europe 1.
On l'évoquait avec Laurent Cabrol juste avant ce journal. Est-ce que vous commencez là à sentir cette petite odeur de liberté plus que deux jours avant la première étape du déconfinement?
Mais oui, dès mercredi, nous pourrons rester dehors jusqu'à 21h, que ce soit pour un verre entre amis ou une séance de cinéma. Nous allons retrouver une vie sociale, mais certains vont devoir se réacclimater. Ce sont les animaux des zoos qui étaient bien tranquilles entre eux pendant toute cette période. Nicolas Fellman s'est rendu à celui de Beauval pour voir comment les soigneurs préparaient éléphants ou autres félins à revoir du public humain.
Lisa va pointer avec sa main gauche son index vers la bouche de Paco. Elle va dire le mot « bouh ».
Les otaries n'ont rien oublié des consignes. Plus de 6 mois de fermeture au seul contact des soigneurs. Il faut maintenant les réacclimater à la foule.
Les animaux sont plus du tout habitués aux visiteurs. Ça fait quelques semaines qu'on recommence à leur mettre les musiques de spectacle. On voit que ça n'a pas d'impact sur elles. On fait beaucoup de séances au niveau des vitres aussi, pour les habituer aussi à voir du monde passer, parce que ça fait quand même quelques mois qu'elles n'ont vu personne. Donc on les réhabitue vraiment petit à petit.
Dans les allées du parc, le directeur supervise les derniers préparatifs.
Ça va aller Franck, tout va être prêt pour le 25?
Rodolphe Delors n'est pas inquiet pour les quelques 800 espèces recensées dans son zoo.
Nos animaux, nous ne débranchons pas pendant cette période. Nous avions 250 salariés qui travaillaient, et soigneurs, et vétérinaires, et biologistes, de façon à ce que nos animaux ne souffrent en aucun cas de ces périodes de confinement. Ils ne seront pas dérangés par le public.
D'autant qu'à sa réouverture, le zoo va devoir réduire ses capacités d'accueil de 50%. Le retour à la normale est prévu pour le 30 juin. Au zoo de Beauval, Nicolas Feldman, Europe 1.
Bon, je m'étais un peu inquiété pour nous, hein. Les Négmonier, les terrasses, les cinémas, les théâtres. Je ne m'étais pas encore posé la question des babouins.
Ah bah voilà,
et autres félins, mais on a la réponse ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup, les Négmonier. C'était le journal de 7h30. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans un instant, le démographe Hervé Lebras dans le tête-à-tête Europe Matin. Au lendemain de l'alerte du Haut Commissariat au Plan, François Bayrou précise qu'à défaut d'une natalité plus vigoureuse, c'est notre système social qui est en péril. Ce sera juste après la Toucham. Bertrand Chameroy, bonjour.
Bonjour Mathieu, si vous vous êtes levé du pied gauche, rassurez-vous, ça aurait pu être pire. Je vous parle cycle court et loterie dans un instant.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h40 sur Europe 1, l'heure de la Toucham, le regard de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, vous pensez peut-être comme moi que votre semaine débute mal. Rassurez-vous, ce matin je vous prouve que tout ne va pas si mal. La loose pourrait être plus grande. Vous pourriez par exemple être supporter de Reims. Ou pire, être chef de parti, organisatrice et bénéficiaire d'un système organisé frauduleux de détournement de fonds européens accablé par un rapport de police relayé par le JDD. Vous voyez, ça va déjà mieux. Mais si c'est toujours pas ça à niveau moral, direction les États-Unis, avec cette histoire rapportée par ABC 7 News, celle d'une Américaine qui a remporté 26 millions de dollars au Super Loto Plus. Pardon. Qui aurait remporté 26 millions de dollars lors du tirage du 14 novembre dernier. Alors pourquoi je vous parle de cette Californienne ce matin si elle a décroché le gros lot il y a 6 mois ? Eh bien parce qu'elle avait jusqu'au 13 mai, jeudi dernier, pour remettre son ticket gagnant, sauf que a pu le ticket. Mercredi, elle s'est rendue dans le magasin où elle avait acheté le précieux sésame pour expliquer qu'elle l'avait passé à la machine à laver. Alors attention, je me moque pas, hein, il m'est arrivé presque la même chose. Pour ce matin, j'avais écrit une chronique. Mais alors une chronique, Mathieu, on se bidonnait du début à la fin. Et puis hier, bah, erreur de débutant, cycle court à 60 degrés, le papier était dans la poche du jean, bah, la tuile quoi. Donc on ne le rappellera jamais assez, toujours vider ses poches avant de lancer une machine et bien séparer le blanc et les couleurs, c'est la base. Sinon vous vous retrouvez avec des chemises comme celle de Mathieu. C'est la couleur d'origine, autant pour moi.
C'est celui qui dit qu'il est.
Vous voyez, on dit souvent que l'argent n'a pas d'odeur, c'est faux, il a parfois l'odeur du mini-dou fraîcheur lavande et du seum intergalactique, comme on appelle ça dans le jargon. Alors attention, l'histoire n'est peut-être pas terminée, car une enquête est en cours pour déterminer si oui ou non l'Américaine dit vrai. Le magasin dans lequel elle affirme avoir acheté le ticket gagnant a remis à la police des images de vidéosurveillance sur lesquelles on la voit bien acheter un ticket et les employés ont confirmé qu'elle était une habituée, donc tout n'est pas perdu. Mais si les autorités jugent les preuves insuffisantes, un peu plus des 19 millions sur les 26 seront reversés à des écoles publiques californiennes. Voilà, je pense qu'avec cette histoire, vous relativisez sur votre lundi matin. Et toujours à propos de loterie, si vous me le permettez, j'aimerais passer un appel à témoins. Si vous faites partie ou que vous êtes un proche d'un des 35 Français qui avaient été tirés au sort pour donner leur avis sur la stratégie de vaccination française, contactez-nous. Ça fait maintenant 135 jours que nous sommes sans aucune nouvelle de ces 35 personnes. Nous ne les oublions pas, mais je commence à me faire un petit peu de soucis pour elles.
Oh mon Dieu, c'était quoi cette musique ? C'est mon choix, c'est ça ?
C'est mon choix. Alors, oh là, je vois là, qu'on là, connaît
là.
Ses classiques.
Ah là, Evelyne Thomas ?
Bravo.
Ouais, ouais, merci beaucoup Bertrand Chameroy.
Avec plaisir.
On révise les classiques. La Toucham tous les matins à 7h40 et à tout à l'heure 10h avec Philippe Vandel. C'est dans Culture Média bien sûr.
Europe Matin. Le 7-9.
7h42 sur Europe 1. Avec la baisse régulière des naissances, nous connaissons un essoufflement du renouvellement entre générations. François Bayrou, haut-commissaire au plan, pose la question d'une nouvelle politique familiale. Il s'agit de préserver notre modèle social. Quelle est l'urgence ? Quels sont les leviers ? Et surtout, comment on fait plus de bébés ? Mon invité, Hervé Lebras, directeur de recherche émérite à l'Institut National d'Études Démographiques, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales.
Le tête-à-tête. Mathieu Béliard.
Bonjour Hervé Lebras.
Bonjour.
L'avenir démographique de la France n'est plus assuré, dit François Bayrou. Le solde naturel. Alors, pour le solde naturel, on soustrait les décès aux naissances. En 2019, le solde naturel français était au plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce rapport du Haut Commissariat au Plan parle de bombe sociale. C'est aussi grave, docteur ?
Oui, le mot bombe, comme très souvent, est exagéré. On l'utilise un peu systématiquement. En démographie, l'explosion démographique par exemple, c'est exagéré mais ça montre une mutation importante. C'est exagéré parce que l'argument de Bayrou sur la politique sociale, il faut le prendre avec des pincettes. Bien sûr, si on manque de naissances, s'il y a moins de naissances dans les années à venir, cela posera un problème pour le paiement des retraites, notamment ce qu'il souligne, mais ça posera un problème dans 23 ans, puisque c'est l'âge moyen auquel on entre en activité. Donc c'est du long terme. Alors je sais bien qu'il a été mis à le commissariat au plan pour s'occuper
Du long terme, mais ça fait quand même dans très longtemps, il se passera beaucoup de choses, et il s'est passé beaucoup de choses au cours des 23 dernières années qui ont d'ailleurs contredit un certain nombre d'angoisses.
C'est vrai qu'il y a la notion dans ce rapport, et vous avez raison de le tempérer, on parle d'urgence, ce rapport appelle d'urgence à une nouvelle politique familiale. On va parler justement de ce qui est propre à la France, mais quels sont les leviers, comment est-ce qu'on peut agir quand on dit d'urgence une nouvelle politique familiale?
Oui, c'est un vieux rêve français. Ce qu'on sait, il y a eu beaucoup d'études, notamment des économistes, pour voir dans quelle mesure les politiques familiales avaient un effet. Elles en ont un, mais elles aussi à très long terme. Il faut modifier les mentalités. Les mentalités, ça bouge lentement. L'idée qu'avec en augmentant les allocations ou en augmentant les facilités de crèche, par exemple, la natalité va rebondir, est une idée qu'il faut mettre au rancard, parce que ça ne s'est jamais vraiment produit. Simplement,
c'est pas mécanique, quoi.
C'est pas mécanique. Simplement, en France, on avait un modèle, on a encore, mais c'est la question qui est un modèle à deux enfants. Si vous voulez, la différence entre un pays comme la France et puis, par exemple, l'Allemagne ou les pays du Sud, c'est qu'il n'y a pas un modèle familial aussi fort. Donc, il y a beaucoup plus d'enfants uniques ou de femmes qui n'ont carrément pas d'enfants. Mais en France, du fait que la France a été le pays qui avait la plus faible fécondité depuis le milieu du 19e siècle, il y a toujours eu une grande angoisse. Et donc, cette angoisse s'est manifestée dans des politiques natalistes. Elles n'ont pas eu d'effet direct, mais elles ont, elles ont donné l'idée qu'il fallait avoir plusieurs enfants pour que la famille existe.
Aujourd'hui, vous dites que la solution tient notamment dans l'égalité homme-femme.
Oui, si on regarde ce qui s'est passé justement du point de vue économique, il faut se souvenir qu'en 1968, au recensement, moins de 50% des femmes étaient actives, des femmes entre 25 et 55 ans. Aujourd'hui, c'est 85%. Et c'est ce qui a sauvé notre système social, c'est pas la natalité, c'est l'entrée des femmes sur le marché du travail. Et ça a été, notamment pour les retraites, doublement bénéfique, puisque ces femmes qui entraient sur le marché du travail ont cotisé, mais elles n'étaient pas encore à la retraite. Donc, il y avait un supplément de cotisation sans qu'il y ait un supplément de retraité. Mais ça va s'inverser. Les femmes, maintenant, sont entrées depuis assez longtemps. Elles partent à la retraite. Et donc, de toute façon, natalité ou pas, la question sociale, et on l'a vu à propos du problème des retraites.
Mais en quoi l'égalité homme-femme dans la vie active permettrait de trouver une solution à ce problème démographique?
Parce que si on regarde les pays où la fécondité est la plus basse, c'est en Europe, essentiellement les pays du Sud, et puis c'est en Asie de l'Est. Le champion vers le bas, c'est la Corée du Sud, avec moins d'un enfant par femme comme fécondité, 0,98, hein, c'est tout près, mais enfin c'est pas deux. Et puis c'est l'Europe du Sud, c'est 1,26 en Italie, ça doit être 1,29 ou 1,30 en Espagne, et ainsi de suite. Et c'est des pays où les femmes ont beaucoup plus de difficultés à accéder au marché du travail. Et donc elles vont faire plus d'études, elles vont dépenser plus d'énergie, et elles vont concevoir la vie en famille comme un obstacle. En France, on a eu au fond une invention dont on peut discuter maintenant d'ailleurs la validité, mais qui a au moins eu un effet, c'est l'idée concilier vie familiale et vie au travail. Et c'est-à-dire que le travail, l'activité ne doit pas gêner la constitution d'une famille.
Alors on peut aider, on le sait, hein, vis-à-vis du congé parental. Le congé paternité, on en a parlé ces derniers temps, qui peut remettre de l'équilibre. Peut-être aussi au niveau des salaires, hein, puisqu'on parle de cotisations. D'un mot, François Bayrou, dans ses suggestions, le Haut Commissariat au Plan est en train d'expliquer au gouvernement aussi qu'il faut plus d'immigration. L'idée, c'est d'avoir plus d'actifs, donc peut-être avoir recours à l'immigration.
Oui, c'est pas nécessaire non plus. Vous avez vu, ce qui a beaucoup joué en France, c'est cette question d'accès des femmes au marché du travail. L'immigration joue un rôle, mais un rôle plus modeste qu'on le croit. C'est-à-dire, quand on regarde au cours des 20 dernières années, le solde migratoire, ce qui est en plus du fait des migrations, c'est seulement, selon les années, c'est entre 40 000 et 70 000 personnes. Donc c'est relativement modeste, parce qu'on oublie qu'un certain nombre d'étrangers, non négligeables,
arrive le solde des étrangers, ceux qui arrivent moins ceux qui partent, donc ce qu'on appelle habituellement l'immigration, c'est à peu près 200 000 personnes. Mais il y a un solde négatif de Français, on l'oublie souvent. Il y a 230 000 en 2018, qui est le dernier chiffre bien calculé par l'INSEE, il y a 230 000 Français qui ont quitté la France et 100 000 qui sont revenus. On les appelle les expatriés, mais c'est quand même 130 000 en moins.
On comprend, cela dit, quand je vous écoute, on a parlé d'immigration, d'égalité homme-femme. Je voyais aussi ce sondage dans Le Parisien aujourd'hui en France hier qui nous disait que 2/3 des 18-30 ans estiment être une génération sacrifiée, cette crainte du déclassement aussi. Tout ça, c'est un sujet très politique finalement que la démographie, la natalité.
Oui, tout à fait. C'est un sujet très politique dans la mesure où ça engage l'ensemble de la vie. C'est pour ça d'ailleurs que le fait d'augmenter des allocations n'est pas le point essentiel. C'est vraiment un choix de vie, l'immigration. Et il ne faut pas que non seulement l'immigration, mais la natalité. Et au fond, il ne faut pas que la difficulté à s'installer dans la vie, à réaliser son existence, son plan de vie, soit un obstacle à la natalité, bien sûr, et c'est ce qui est en train de se produire, vous avez raison de le dire, c'est peut-être pas la peur du déclassement, c'est le fait que maintenant, en France, on dit quelquefois, l'ascenseur social est bloqué, c'est-à-dire que vous avez fait des études, vous avez une compétence, eh bien, vous ne trouvez pas de débouché sur le marché du travail, vous en trouvez un qui est inférieur au niveau de compétence voilà. Que vous avez acquis, et ça, c'est difficile à vivre, on cherche à, au fond, on cherche à monter, on cherche à le réaliser, et du coup, on passe moins de temps à chercher à faire une famille.
Hervé Lebras, démographe, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et directeur de recherche émérite à l'Institut national d'études démographiques qui a servi, on le sait, à ce rapport du Haut Commissariat au Plan. Merci beaucoup Hervé Lebras. Merci d'être venu répondre à nos questions dans le studio d'Europe 1 ce matin. 7h51, dans quelques toutes petites secondes, l'édito politique. Nicolas Bétou, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h54 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
L'affaire des assistants parlementaires européens du Rassemblement national est ressortie ce week-end avec la publication d'une note de police détaillant, je cite, « le système organisé frauduleux de détournement de fonds publics mis en place par ce parti ».
Oui, en fait, c'est toujours la même affaire de financement politique, un mécanisme qui aurait été mis au point par Jean-Marie Le Pen et amplifié par sa fille lorsqu'elle a pris en main le parti. L'instruction a été ouverte en 2016, ce qui a fait dire à Marine Le Pen qu'il n'y avait rien de nouveau sous le soleil, sauf peut-être de bons sondages en vue. Autrement dit, ressortir cette affaire, c'est une manœuvre politique destinée à entraver sa course à l'Élysée.
Et c'est crédible ?
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une enquête et qu'à ce jour, l'affaire est devant la cour d'appel de Paris. De ce point de vue, Marine Le Pen a donc raison. S'il y a quelque chose de neuf, ce n'est pas dans la procédure judiciaire ni dans l'enquête, mais dans la relance médiatique de cette affaire. D'où le soupçon qu'elle tente d'instiller sur le thème « Le pouvoir refait le coup des juges contre Fillon ». Il utilise la machine judiciaire contre ses adversaires politiques. Alors évidemment, rien, absolument rien ne prouve que ce soit vrai, mais les partisans de Marine Le Pen et tous ceux qui envisagent déjà de voter pour elle en 2022 auront tôt fait de se demander pourquoi diable cette affaire ressort un an pile avant la présidentielle. Et bien entendu, l'idée du complot n'est pas très loin.
Oui, sauf qu'il n'y a pas le début d'un commencement de preuve de complot.
Absolument aucun, mais peu importe. Ce genre de sentiment ne fonctionne pas avec des preuves, mais avec des intuitions du style « Marine Le Pen est l'adversaire la plus dangereuse pour Emmanuel Macron. Si une affaire sort, c'est donc lui qui l'a sollicité. » Et à l'appui de cette thèse, on notera par exemple la réaction de Christophe Castaner, le patron des députés de La République En Marche, qui est le seul à s'être bruyamment exprimé sur ce dossier de financement du RN. Et pour cause, En Marche est trop récent dans la vie politique française pour avoir eu les mêmes problèmes de financement illégal que tous les autres partis, ou presque.
Est-ce que ça veut dire que la majorité n'a pas forcément intérêt à utiliser cette affaire ?
Je le crois en effet. Je pense que beaucoup de Français ont eu la nette impression que la justice avait été bizarrement rapide dans l'affaire Fillon. Et je pense que la perspective de voir la prochaine élection présidentielle biaisée par des procédures judiciaires ne serait bonne pour personne, y compris pour l'actuelle majorité. La vie démocratique en France est malade, inutile d'en rajouter.
Votre édito politique, c'est tous les matins à 7h50. Merci Nicolas Bétou, directeur de la du journal L'Opinion. Et tous les matins, juste avant 8h, on retrouve Nicolas Canteloup qui conseille à sa façon l'invité de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Olivier Bogillot, le PDG de Sanofi. Le laboratoire français a pris du retard dans la confection d'un vaccin contre le coronavirus. Et c'est Michel Simès qui est venu dire un mot à notre invité.
Eh oui, bonjour Marina, bonjour à Nicolas Bétou alias Madame Irma, bonjour à Mathieu Béliard. Mathieu Béliard, revenu de son unité de soins palliatifs située dans son garage. Alors, Sanofi est un excellent laboratoire français. Ils sont très forts, vous le savez, en aspégique, en doliprane, en soliprède, en tranxène, mais aucun des quatre n'est apparemment efficace contre le Covid. Ils ont même essayé en les mélangeant au shaker, ça ne marche pas non plus. Alors, le site européen bien inspiré pose cette excellente question. Sanofi a-t-il perdu définitivement la course au vaccin ? Je ne suis incompétent. Nelson Montfort, vous avez un début de réponse, Nelson.
Bon, et alors, écoutez, mon cher Michel, écoutez, je suis, si je puis me permettre, une métaphore sportive, quand votre adversaire est monté sur le podium, qu'il a déjà reçu la coupe, qu'il est reparti au vestiaire, qu'il est douché sur le point de rentrer chez lui, je crois pouvoir dire que la défaite est actée. Si Pfizer est médaille d'or, Johnson, médaille d'argent et Astra, médaille de bronze, Sanofi est donc médaille de quatrième médaille de Walou, de Quedal, de Pozob. Donc ne retenez pas trop Olivier Bogillo. Il a un vaccin à trouver, il est déjà, je le crois, assez à la bourre comme ça.
Oh, mais si, on va le retenir. Nelson Montfort, vous n'aviez pas écouté à 7h30, on l'apprend ce matin. Hein. Les résultats de la phase 2 de test de Sanofi sont très bons. On en parle avec Olivier Bogillo à 8h15 sur Europe 1 après le journal de 8h. Et Nicolas Canteloup, on vous retrouve à 8h45, bien sûr, pour la revue de presse. À tout de suite.